Bonjour à tous et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, c'est la tradition. Nous reviendrons avec eux deux sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis on débat ce samedi une question qui pourra vous paraître folle en pleine campagne présidentielle. Le scrutin se rapproche à grands pas pour élire celui qui sera notre prochain chef de l'État. Et donc, une société a-t-elle besoin d'un gouvernement ? Question étonnante. Peut-on sortir du schéma, du diptyque commander, obéir ? Et un problème qui revient régulièrement dans le débat public, peut-on concevoir, peut-on même seulement imaginer un ordre social non contraignant ? Autrement dit, imaginer un ordre pour la liberté. C'est ce qui est au cœur de la démarche des anarchistes, une tradition de la pensée politique qui refuse la verticalité du pouvoir et les ordres venus d'en haut. Il suffit de penser au slogan « ni Dieu ni maître » pour en prendre la mesure. Et l'une de nos grandes philosophes a voulu reprendre cette tradition qu'on pensait reléguée au livre d'histoire. Ancienne élève de Jacques Derrida, elle est spécialiste de Hegel, professeur de philosophie à l'université de Kingston au Royaume-Uni. Elle vient de publier un essai passionnant, parfois aride, aux presses universitaires de France. Le titre « Au voleur !» Anarchiste et philosophie. Rendez-vous avec elle dans une vingtaine de minutes. Elle nous expliquera pourquoi, selon elle, l'anarchisme travaille déjà nos sociétés. L'anarchisme travaille au cœur même des formes les plus contemporaines du capitalisme. Elle nous expliquera également comment imaginer un anarchisme d'éveil, un anarchisme qui s'exprimerait à travers le féminisme, par exemple, le combat écologique contre les formes les plus brutales de domination. Catherine Malabou sera dans le grand face-à-face tout à l'heure.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Mais d'abord, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer, une campagne politique ne se mesure pas en unité de bruit médiatique. La preuve par la stratégie choisie, peut-être subie par Marine Le Pen, on va en débattre. Et entre deux interviews, un déplacement et une conférence de presse, le choix d'une prise de parole de la présidente du Rassemblement National dans un lieu très symbolique, là où tout avait commencé pour Emmanuel Macron, le soir même de son élection devant la pyramide du Louvre.
Je veux rendre aux Français leur pays. Je veux leur rendre leur sécurité. Je veux leur rendre leur argent, fruit de leur travail. Mais aussi parce que pour un peuple, rien n'est plus porteur de discorde et de désordre que la mésestime de lui-même. Je veux leur rendre leur fierté. Il reste 3 mois. N'attendez pas l'élection. Faites-la. Pour fermer définitivement la parenthèse ouverte ici d'un macronisme toxique pour le pays, j'ai besoin de vous à mes côtés.
C'était donc la voix de Marine Le Pen sur fond musical. Marine Le Pen qui avait posté samedi 15 janvier, il y a donc tout juste une semaine, un clip de campagne, une vidéo qu'il a montré dans la cour du musée du Louvre devant la pyramide de Pei. Gilles Finkelstein, vous voulez revenir sur la stratégie de la candidate Marine Le Pen. Drôle de campagne, on peut dire ça ? Campagne étonnante, campagne surprenante de sa part ?
Oui, Marine Le Pen est dans l'actualité cette semaine. Elle a fait une conférence de presse sur l'Europe, elle a dévoilé son plan pour l'hôpital. Elle était présente à l'antenne de France Inter il y a quelques jours. Et pourtant, je suis frappé par le paradoxe suivant. En 2017, il y avait une attention très forte autour de Marine Le Pen alors que le risque était faible. En 2022, il y a une attention beaucoup plus faible, alors que le risque est beaucoup plus fort.
Qu'entendez-vous par risque ?
Le risque non seulement d'une présence au deuxième tour, mais d'un score très élevé, voire d'une hypothétique victoire de sa part. Pourquoi l'attention est-elle moins forte ? Pour partie, pour les raisons que vous avez évoquées, par la campagne qu'elle a choisi de mener, dans laquelle qui est moins clivante que les campagnes précédentes, les différences de position sur l'Europe en sont une illustration. Pour partie aussi parce qu'il y a une forme de banalisation liée à une troisième candidature. Pour partie parce qu'elle est cette fois-ci concurrencée, notamment par la candidature d'Éric Zemmour et qu'elle est donc affaiblie. Mais je crois que c'est une erreur de ne pas porter attention à ce qui se passe de ce côté-ci parce que, en réalité, Marine Le Pen résiste. Elle a un socle électoral de premier tour qui est solide, qui a d'un point de vue sociologique, une vraie spécificité. L'électorat populaire, il est resté chez elle. Elle a 35% des ouvriers votent pour elle. C'est l'électorat qui est le seul à avoir comme, à ce point, comme priorité le pouvoir d'achat. C'est un électorat qui, politiquement, est convaincu par Marine Le Pen. L'électeur qui est le plus sûr de son choix, c'est l'électeur lepéniste. Il pense qu'elle va être au deuxième tour à 95% et plus de la moitié d'entre eux pensent qu'elle va être élue. Donc, il y a un socle qui est un socle solide et elle dispose de réserves potentielles. Le deuxième choix des électeurs d'Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen. Donc, elle est là, elle peut être au deuxième tour. Aujourd'hui, elle prend même un peu la main sur par rapport à Valérie Pécresse. Et donc, je crois qu'il faut regarder avec attention ce qui se passe de ce côté-là.
Et c'est ce qu'on va faire le temps que vous mettiez votre téléphone portable sur silencieux, Natacha Polony.
Oui, c'est assez intéressant d'ailleurs ce clip dont on passait là un extrait, parce que ce clip, certes, est une forme de réponse à Emmanuel Macron par le cadre même, à savoir le Louvre. C'est aussi une réponse au clip de campagne d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on entend bien la tonalité qui se veut extrêmement différente, alors qu'on avait un Éric Zemmour avec un clip apocalyptique sur le déclassement. Là, il est question de déclassement, mais dans une perspective qui se veut positive, où on parle de fierté, de réappropriation, etc., etc. Et en fait, Marine Le Pen, c'est un point qu'on a déjà observé depuis le début de cette campagne, mais qui est extrêmement frappant, est en fait servie par la candidature d'Éric Zemmour, dans le sens où même si ça peut lui coûter potentiellement sa place au second tour, en revanche, ça la positionne comme quelqu'un davantage raisonnable. Regardez, c'est vrai que Gilles disait qu'elle a gommé les éléments les plus problématiques ou ceux qui faisaient peur dans son programme. En l'occurrence, un élément majeur est l'abandon total de tout le discours sur la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro. Et là, il y a une forme de tournant par rapport à 2017, mais il y en a un autre qui est apparu cette semaine, et qui est la suppression de l'idée qu'il faudrait en finir avec la double nationalité. Symboliquement, c'est énorme, d'autant plus que elle l'explique en disant que elle a entendu ce que lui disaient les gens qu'elle connaissait, des Marocains notamment, qui lui disaient qu'il ne pouvait pas abandonner, que cette nationalité marocaine ne peut pas être retirée. Enfin, donc, elle y met de l'humain. C'est-à-dire qu'en gros, elle est en train de jouer le contre-pied total d'Éric Zemmour. Et de
enfin,
ce fait...
Enfin, de l'humain, en l'occurrence, la question de la nationalité marocaine, elle est inadmissible, donc juridiquement, de toute façon...
Oui, mais ce qu'elle explique, c'est qu'elle a parlé avec des gens, c'est qu'elle a compris, c'est qu'elle a écouté. Ça, on est dans la communication politique pure. Et c'est intéressant de voir que le Rassemblement National, enfin en tout cas Marine Le Pen, joue ce créneau-là qui n'était absolument pas le sien jusqu'à présent. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense, dans le paysage politique.
Une précision, Gilles, si le vote avait lieu demain, Marine Le Pen, elle en est où dans les intentions de vote? Alors, elle serait au second tour?
Dans l'intention de vote que l'on sort aujourd'hui même, le panel électoral avec Le Monde, le CVPOF, la Fondation Jean Jaurès et Ipsos, elle est à 15,5%, exactement le même score que Valérie Pécresse, à ceci près qu'elle est en progression par rapport à la vague précédente et que Valérie Pécresse est en léger recul. À ce stade, nous sommes dans l'incertitude. Mais pour prolonger ce que dit Natacha à l'instant, c'est intéressant de voir les effets que cette stratégie produit sur l'opinion. Parce qu'il y a une sorte de glissement de terrain successif, et c'est pour ça que je disais que le risque est plus fort. Le signe le plus manifeste de ça, c'est quand on regarde, c'est la première fois qu'on fait une intention de vote de deuxième tour. En 2017, Marine Le Pen fait 33% au deuxième tour. Elle est aujourd'hui à 43%, 44%, 45% dans certaines enquêtes. Et on voit que la présence d'Éric Zemmour dans le jeu a modifié la perception de Marine Le Pen elle-même. Par exemple, là où majoritairement les Français considèrent qu'Éric Zemmour, c'est l'extrême droite nationaliste et xénophobe, majoritairement, Marine Le Pen maintenant, c'est une droite patriote. Le rapport entre les Français qui considèrent que Marine Le Pen est un danger pour la démocratie ou pas est maintenant équilibré, 48-42. La volonté d'avoir une alliance entre les Républicains et le Rassemblement National est aujourd'hui des scores substantiels chez les Républicains. Donc tout ça, ce sont des petits mouvements qui expliquent le fait que ce rapport de force de deuxième tour soit beaucoup plus serré. Encore une fois, même si on est très loin, ça ne veut pas dire que Marine Le Pen va être élue. Ça ne veut encore moins dire que les Français veuillent que Marine Le Pen veuille être élue. Ils ne le veulent pas très majoritairement. 68% d'entre eux disent que ça serait pas un bon président de la République. Mais ça rentre dans l'ordre du possible aujourd'hui.
Natacha.
Oui, il y a un autre élément encore qui me semble intéressant. C'est en effet l'avenir de ce qu'on appelle la droite ou les droites à partir de là. Parce que le grand discours d'Éric Zemmour est de dire qu'il veut faire l'alliance des droites et qu'il s'inscrit dans la lignée du RPR des origines. Or, en fait, il me semble que ce qui est en train de se passer, c'est justement que le Rassemblement national, dans son positionnement actuel, essaye de jouer quelque chose qui serait la récupération, en fait, toute une part de l'électorat originel RPR, ce que on appelait à un moment, c'était le conseiller de Pasqua qui disait, c'est la droite des garagistes, c'est-à-dire en gros...
La droite des garagistes.
Oui, c'est-à-dire la droite populaire de province, plutôt des indépendants, des petits commerçants. Eh bien, cette droite-là est partie depuis longtemps au Rassemblement national. Elle n'était plus chez les Républicains à l'UMP. La question est de savoir où est-ce qu'elle va se situer et si elle aspire à une alliance des droites. Et paradoxalement, ce n'est sans doute pas par Éric Zemmour que cette droite-là va passer.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
La baguette blanche, premier prix à 0,29, ça fait 2 ans qu'on y est. Et ma publicité, c'est pas une baisse de prix, c'est de dire qu'on bloque les prix, et alors qu'on a déjà accepté les augmentations tarifaires des agriculteurs. Si j'augmente mes prix, je me fais dézinguer, mais par contre, quand je les baisse, mais c'est quand même un comble. Mmh. Je dois me justifier auprès d'une classe politique. C'est un parti pris politique, pour le coup, c'est ça.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'un des patrons les mieux connus de notre pays, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres. Leclerc qui était l'invité d'Inter dimanche dernier. Il y a eu cette polémique suscitée par la baguette à 29 centimes d'euros, la baguette blanche dans ces hypermarchés, levée de bouclier de la part des agriculteurs, des boulangers, de ses concurrents évidemment, et la baguette peut-être autant que la pyramide du Louvre, c'est un symbole de la nation française, mais c'est un autre symbole, celui-là du pouvoir d'achat et de l'inflation. On peut aimer la baguette craquante ou pas trop cuite, mais ce n'est pas une question de goût. La baguette, c'est surtout un indicateur de la hausse des prix. Conséquence de la flambée des matières premières, le prix de la baguette a augmenté de 15% ces derniers mois, une dizaine de centimes. Et est-ce que vous comprenez cette polémique autour de la baguette, Natacha?
Alors, il faut rappeler 2-3 petites choses autour de cette polémique-là, qui n'est absolument pas une polémique anodine, contrairement à ce qu'essaye de faire croire Michel-Édouard Leclerc. D'ailleurs, en fait...
Ce n'est pas qu'un coup de pub.
Non, alors, si, c'est un coup de pub de sa part, c'est même pas seulement ça. Il y a le coup de pub, c'est-à-dire, et un coup de pub... J'allais dire que Michel-Édouard Leclerc arrive toujours très bien à jouer puisque il est le patron sympathique, le patron préféré des Français. Il se présente comme le chantre du pouvoir d'achat, en effet celui qui va par philanthropie totale aider les pauvres. Or, derrière cette baguette à 29 centimes, dont on comprend bien que dans un moment où des gens comptent le moindre euro, on comprend bien que c'est important ce prix de la baguette. Pour autant, premier point, la question est de savoir ce qu'il y a dans cette baguette. De quelle baguette on parle? Comment elle est faite? De plus en plus de pain est acheté dans les grandes surfaces. Ce sont des baguettes qui souvent sont soit congelées, soit mises au froid, qui sont ensuite faites avec des farines dont certaines ont une traçabilité...
Lui dit qu'ils ont 2000 boulangers, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces polémiques, en l'occurrence, de ces grands patrons qui jouent la guerre des prix.
Premier point. Alors, je disais, c'est un coup de pub sur un moment où l'inflation devient un problème. Et un coup de pub qui se fait au détriment de petits artisans qui, eux, ne peuvent pas récupérer des marges sur d'autres choses. C'est ensuite un coup de pression parce que nous sommes dans la dernière ligne droite de la négociation des prix avec les producteurs, entre la grande distribution et l'agroalimentaire et les coopératives, etc. Et donc tous les ans, on voit surgir notamment Michel-Édouard Leclerc, qui est le plus doué pour ce genre de bras de fer, pour essayer de faire pression sur les différents producteurs pour qu'ils ne répercutent pas, eux, la hausse des prix. Et donc, c'est là-dedans qu'on a... C'est-à-dire, c'est une fois de plus le contournement de la loi Egalim, qui, justement, voulait réguler cela, voulait diminuer la guerre des prix entre les grands distributeurs, parce que les grands distributeurs, en gros, font baisser les prix pour attirer les clients chez eux, au détriment des, non seulement des entreprises d'agroalimentaire, mais des paysans. Et donc la loi Egalim a essayé de limiter la vente à perte, les grosses promotions qui sont récupérées par des marges énormes ailleurs, etc. La première loi Egalim a été totalement contournée, d'où le fait qu'il y en a eu une deuxième.
Egalim 2.
Voilà, Egalim 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en effet une politique extrêmement complexe à mener et qu'il ne faut pas être dupe d'un discours qui est un pseudo-discours philanthropique.
Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, je le signale, dénonçait mardi une opération de pure communication de Leclerc et il a décidé de bloquer le prix de la baguette de pain dans ce magasin à 29 centimes d'euros. Il partageait l'incompréhension et la colère exprimée lors d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale. Gilles ?
Oui, cette affaire a eu un écho considérable dans toute la France parce que c'est la baguette, produit symbolique, parce que c'est Michel-Édouard Leclerc, Natacha l'a évoqué, parce que le prix est spectaculaire et parce qu'il y a le contexte à la fois de reprise de l'inflation et d'une certaine manière de mutation de l'inflation qui était d'abord sur l'énergie et qui est maintenant sur les produits alimentaires. Et de contexte politique dans lequel la première priorité, on le voit dans le baromètre que l'on sort aujourd'hui, le pouvoir d'achat devient la priorité dominante de cette campagne beaucoup plus qu'avant, partagée par tous les électorats, à l'exception de celui d'Éric Zemmour. Donc, il y a tout ça qui explique cet écho. Il y a une première grille de lecture qui est du côté de Michel-Édouard Leclerc. Ce que disait Natacha Polony à l'instant, c'est une campagne qui lui a coûté relativement peu. Il y a 700 000 euros qui ont été investis en achat d'espace dans la presse nationale au début. Et ça rapporte beaucoup, ça rapporte beaucoup. C'est une campagne de communication gratuite à grande échelle. Ça rapporte en images et ça rapporte sans doute même financièrement parce que la baguette fonctionne comme un produit d'appel. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est en deuxième lecture ce que ça veut dire pour notre société. Et je prolonge la thèse qui est celle développée par Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli dans La France sous nos yeux, oui, dans laquelle ils développent l'idée d'une démoyennisation de la France. C'est-à-dire que la classe moyenne se trouve aspirée des deux côtés. Il y a d'un côté la France premium, de l'autre côté la France du discount. Et ils utilisent un certain nombre d'objets, la bière, de vacances, pour illustrer cette évolution. La baguette en est une formidable illustration. Il y a de plus en plus dans les centres-villes des boulangeries qui sont ce qu'ils appelleraient les boulangeries premium. Vous avez un design très très chic ou rustique, enfin un design très particulier dans lequel il y a une recherche sur la qualité des farines anciennes, des farines bio dans lesquelles le pain est cher. Et vous avez un certain nombre d'urbains ne le voient pas. Dans le même temps, cette France du discount avec un développement considérable de nouvelles chaînes. Hein, c'est des centaines et des centaines d'enseignes qui se sont montées dans la France périphérique avec des baguettes low cost, alors qu'ils sont faites parfois pas nécessairement dans les conditions qu'évoquait Natacha. Mais en tout cas, c'est une bonne illustration de cette démoyennisation de la France.
Natacha ?
En un mot, il faut aussi rappeler qu'il y a une histoire du pain et de la baguette. Et ça me semble très important parce que tout le monde l'a oublié, mais cette baguette blanche dont on parle, elle est le fruit de l'industrialisation de la panification. C'est-à-dire que pendant un siècle, on a sélectionné petit à petit des blés qui permettaient de panifier mécaniquement, avec des machines. Donc ça donne un pain qui n'a plus tout à fait la même texture. Le processus est industrialisé, on a gagné du temps sur la fermentation. Or, pardon de le dire, mais c'est absolument infect. Et dans les années 80, il n'y avait que ça comme pain. que ça. Et il y a des gens, par exemple Jean-Pierre Coff a été à la tête d'un mouvement pour essayer d'alerter sur le fait que la France, qui était le pays du pain, était en train de perdre le goût. Et il y a eu...
Et on se souvient encore de ces coups de colère à la télévision et à la radio.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la puissance publique est intervenue. C'est-à-dire qu'en 1993, il y a un truc qui s'appelle le décret pain, qui décide que ne peut être appelé boulangerie qu'un endroit où on pétrit la pâte et où on la fait fermenter. Et deuxième chose dans ce décret pain, on crée la baguette tradition, c'est-à-dire la vraie baguette en fait, c'est-à-dire celle qui nécessite 15 à 20 heures de fermentation de la pâte. Il ne faut pas autre chose que de la farine, du sel, du ferment, donc pas d'additifs. Et elle n'a pas le droit, elle ne doit pas être congelée. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette différence entre la baguette blanche, qui est restée la même, et cette baguette tradition. Et cette baguette tradition, là aussi, la grande distribution contourne ce décret pain. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas congeler, eh bien... on met au froid pendant 10 jours, ce qui permet d'écouler les stocks et de ne pas avoir de pertes, alors que le boulanger ne peut pas faire ça. Vous voyez, donc il y a plein de choses derrière ça, c'est un système où on va systématiquement vers le low cost. Nous sommes dans un moment du capitalisme où, au nom de la préservation du pouvoir d'achat, on détruit petit à petit la qualité, en faisant croire aux gens qu'on leur fait manger la même chose, alors que ça n'est plus la même chose. Et que ce système de baisse de la qualité, en fait, coûte à tout le monde. Ça détruit des savoir-faire, ça détruit des emplois. Donc en fait, c'est une spirale négative dans laquelle, parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat, ils vont acheter moins cher. Du coup, les emplois générés par cette filière sont de moins en moins lucratifs ou alors ils sont délocalisés. Et du coup, vous avez de plus en plus de pauvreté, donc de plus en plus de besoins de low cost. C'est cette mécanique qu'il faudrait casser.
Il faudrait imaginer qu'un jour la France importe des baguettes, ce serait fou.
Mais la France importe des baguettes dans la grande distribution. Il y en a qui viennent de Pologne ou d'ailleurs.
Il reste quand même 33 000 boulangeries dans notre pays, c'est-à-dire... En gros, en moyenne, évidemment,
oui,
la moyenne n'a pas de sens, mais c'est une boulangerie par commune. Alors, il y a eu, c'est vrai, un mouvement de standardisation du goût dans les années 80-90, notamment parce que les groupes de meuneries livraient la farine avec les
recettes. Et ils continuent, certains boulangers perdent leur savoir-faire.
Et c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est que... on demeure un pays dans lequel il y a beaucoup de boulangeries indépendantes, beaucoup de boulangeries de centre-ville. Et c'est ça qui est en jeu. Et ça ne se résout que par la qualité.
Bien sûr. Ça ne se bouffe pas, ça se mange.
Le grand face-à-face. Le duel.
68 millions, nous sommes 67 800 000 habitants en France, accroissement de la population selon l'INSEE, plus 0,3%, alors ça peut paraître faible, 0,3%, mais ce sont 738 000 naissances et c'est une tendance démographique qui, encore une fois, place la France à contre-courant avec un taux de fécondité qui s'est légèrement accru, même si on est loin de ce qu'il faudrait pour le renouvellement des générations et de la population. Gilles, pourquoi est-ce que vous vouliez revenir sur ces chiffres de l'INSEE qui étaient publiés cette semaine ?
Alors, d'abord parce que moi c'est un sujet qui me passionne.
Je trouve faire des bébés ?
Parmi les sujets les plus structurants, la démographie et le climat. Et que j'ai été surpris encore une fois par la manière dont les données de l'INSEE avaient été reçues. En gros, c'est formidable, il y a 3000 bébés en plus et c'est formidable parce qu'il y a 12 000 morts en moins. En réalité, je pense qu'il y a à la fois des leçons démographiques et des leçons politiques à tirer de ce bilan de l'INSEE. Les leçons démographiques sur les naissances, oui, ce qui est positif, c'est pas qu'il y ait 3000 bébés en plus, parce que c'est rien du tout. Hein. C'est par rapport à 738 000, l'évolution est très faible.
Le niveau d'avant-crise n'est toujours pas atteint.
Il n'est pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la pente. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de l'année qu'on a fait plus de bébés, ça veut dire au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la période de confinement dans laquelle il y avait eu une chute de la natalité.
Pendant l'été ?
pendant l'été, enfin pendant surtout ces post-confinement.
Voilà, c'est tout.
Le problème est qu'on ne sait pas pourquoi. Et ce qui est merveilleux.
Pourquoi les Français ont plus fait l'amour ?
Alors, c'est pas plus fait l'amour. C'est pourquoi ils ont fait plus de bébés, parce
Il y a pas nécessairement
un lien entre les deux, mais voilà.
Il y a un lien direct. Hein.
Je dis c'est mystérieux. Ça reste
moins
mystérieux
depuis,
parce qu'on ne sait pas
vous
si c'est un report, si c'est des bébés qui n'avaient pas été faits pendant le confinement qui sont faits après, ou si c'est un rebond. Et donc ça, l'avenir le dira. Et puis sur les décès, là en réalité, les nouvelles ne sont pas si bonnes que ça. Certes, il y a moins de morts parce que les vagues successives de Covid ont causé moins de dégâts. Mais il y a beaucoup plus de morts qu'avant, tout simplement parce que notre pays vieillit. Et pour la première fois, les plus de 75 ans représentent maintenant 10% de la population française. Et de tout ça, je crois qu'il y a un certain nombre de leçons politiques qu'il faut tirer.
Le premier point, c'est en effet que avant le Covid, on voyait des pics de mortalité qui était de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation de toute façon, avec même parfois une surmortalité certaines années, qui était quasiment celle que l'on connaît cette année. Et ça signifie quoi ? Ça signifie en effet que les baby-boomers arrivent à l'âge où certains décèdent. C'est-à-dire que la démographie, les chiffres auxquels nous sommes habitués, vont être bouleversé dans les années qui viennent et qu'il va falloir savoir les lire. Alors pour ce qui est de la natalité, en effet, ce qui est très intéressant, c'est que Gilles le disait, on est toujours incapable de savoir exactement ce qui va déclencher chez les gens l'envie de faire des bébés, c'est-à-dire
quel est le lien
en fait entre l'espérance en l'avenir et la décision de faire un enfant. Enfin, il faut quand même noter qu'en France, le baby-boom, il commence en 1943, ce qui est quand même assez surprenant quand on y pense.
Alors que là, on a dit que la chute du nombre de naissances était liée au climat anxiogène de la pandémie.
Oui, sauf que on s'aperçoit qu'il reste un climat anxiogène, il reste, quand on étudie un petit peu l'opinion, une forme de fatigue, de déprime.
Bah,
et pour autant, il y a un rattrapage, mais qui n'est pas un rattrapage complet. Donc, on ne sait pas très bien ce que tout ça va donner. Il me semble que les questions à se poser sont celles de la gestion de l'évolution de l'âge des populations, bien sûr, de la question donc de l'espérance de vie et de ce que ça signifie. Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé est suffisamment prise en compte ? Bref, Gilles le disait, il a tout à fait raison, ce sont des questions éminemment politiques.
Vous n'avez pas parlé d'amour, ce qui m'étonne malgré tout. Alors, bon, poursuivez sur l'analyse politique, Gilles Finkelstein.
Oui, moins sur
à moins que l'amour soit une question politique aussi.
Alors, moins sur l'amour que sur la politique. Oui, je crois que dans les leçons qu'on peut en tirer, c'est que le discours catastrophiste qui a été tenu par un certain nombre de candidats, Éric Zemmour le premier, sur l'écroulement du pays, l'écroulement national, on voit que la démographie est une infirmation à cette thèse-là et que la France reste dans l'Union européenne, faut quand même le dire, le pays dans lequel le taux de fécondité est le plus élevé. Et donc, ce n'est pas ça, à mon avis, la leçon politique centrale. La leçon politique centrale, c'est l'ampleur des défis sociaux qui sont devant nous. Le défi du grand âge et de la question de la dépendance, et le défi aussi des premières années, ce que Boris Cyrulnik avait, le rapport qu'il avait fait sur les 1000 premiers jours, il y a encore 740 000 naissances, et je crois que ça, c'est deux des sujets sociaux les plus majeurs pour l'avenir du pays.
La nourriture, l'amour, et maintenant la liberté à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec notre invitée, la philosophe Catherine Malabou.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Avons-nous forcément besoin d'un chef ? Une société peut-elle se passer de gouvernement ? C'est une question qui peut paraître paradoxale alors que la présidentielle approche à grands pas. Et si nous pouvions imaginer une manière de vivre ensemble fondée sur le refus de tout ordre qui ne serait pas librement consenti ? Un spectre hante notre époque, c'est celui de l'anarchisme. L'anarchisme qui travaille les formes les plus contemporaines du capitalisme. L'anarchisme aussi comme une manière peut-être de se libérer des formes qui s'imposent, des formes de domination. Bonjour Catherine Malabou.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être l'invitée du Grand Face à Face. Vous êtes l'une de nos grandes philosophes, ancienne élève de Jacques Derrida, spécialiste de Hegel. Vous enseignez la philosophie à l'université de Kingston, au Royaume-Uni, et vous publiez un livre passionnant, un livre stimulant, Au voleur, point d'exclamation, anarchisme et philosophie, c'est aux presses universitaires de France. Vous allez nous expliquer pourquoi ce titre et on va essayer de rentrer avec vous dans cette analyse, ce regard et ce projet politique également qu'on trouve dans ce livre. Mais pour éviter les caricatures, ne pas en rester au slogan ni Dieu ni maître, un A au milieu d'un cercle, comment définir de la manière la plus simple et la plus accessible l'anarchisme ? Le mot vient du grec ?
Le mot vient du grec, anarchia, qui veut dire sans archet. Archet étant le maître mot, en fait, de la philosophie politique occidentale, puisqu'il est réélaboré par Aristote. Hein, c'est un mot qui existait en grec, qui voulait dire le premier. Et Aristote en a fait le fondement, en fait, de la politique, au sens où il affirme qu'il faut bien un premier pour maintenir l'ordre.
Il faut à la fois le commencement et le commandement.
Voilà, il a réuni ces deux sens dans le mot arché qui n'y était pas au début.
Alors on va parler des formes sous lesquelles se manifeste l'anarchisme. Vous dites qu'il y a l'anarchisme de fait, celui qui est déjà installé sans parfois qu'on s'en rende compte, et l'anarchisme d'éveil. L'anarchisme de fait, comment est-ce que vous pourriez en donner une image, une indication ? Où est-ce qu'il apparaît le plus clairement pour vous, Catherine Malabou ?
Donc la situation est assez complexe parce que, selon moi, on vit une époque où l'anarchisme s'est inscrit dans le réel, mais pas l'anarchisme révolutionnaire, pas l'anarchisme de combat d'abord, mais l'anarchisme effectivement de fait, qui se manifeste par ce que j'appelle l'ubérisation généralisée de la vie, où en fait nous vivons une forme d'horizontalité où chacun peut accéder à des services, chacun peut louer son appartement s'il en a envie, et où en fait l'abandon que nous vivons, l'abandon par l'État-providence, renforce ce côté d'apparence horizontale.
Paradoxalement, le capitalisme le plus contemporain est travaillé par l'anarchisme.
Par
on le voit par exemple dans les crypto-monnaies, des monnaies qui n'ont pas besoin d'État, qui n'ont pas besoin de banque centrale par exemple pour fonctionner. Donc ça c'est l'anarchisme de fait, l'anarchisme d'éveil.
Alors il me semble que justement à cette situation doit répondre une nouvelle théorie anarchiste, cette fois émancipatrice, d'éveil. Alors on en voit quelques signes évidemment dans les nouvelles expressions des mouvements sociaux, comme les Gilets jaunes ou d'autres mouvements aux États-Unis, Black Lives Matter par exemple. Et il m'a semblé important...
Des mouvements horizontaux, sans chef, sans organisation structurée, pyramidale.
Voilà, à des syndicats ou des partis. Il m'a semblé important, de mon point de vue de philosophe, d'élaborer une véritable philosophie de l'anarchisme qui me semble faire défaut, si on la compare par exemple avec le marxisme, qui reste quand même quelque chose de très élaboré. L'anarchisme, en fait, vous le disiez vous-même, on en reste à de vieilles idées, ni Dieu ni maître, etc., alors qu'il y a évidemment une évolution, et qu'il est important de reprendre la tradition anarchiste pour montrer à quel point elle est sérieuse, mais il faut la repenser.
Alors... Vous allez nous expliquer d'ailleurs cette démarche qui est la vôtre. Vous êtes loin des caricatures et c'est par exemple l'invitation à penser l'anarchisme comme manière de mettre fin à la domination masculine. Vous avez travaillé sur le féminisme et ses formes les plus contemporaines, sur le clitoris, et vous nous direz ce qu'il vient faire dans cette histoire-là. Avant de donner la parole à Natacha, le titre « Au voleur !» point d'exclamation.
Alors, au voleur, c'est parce que je pense que beaucoup de grandes pensées philosophiques du XXe siècle, j'en analyse un certain nombre, celles de Lévinas, par exemple, de Rancière, de Foucault, etc., ont emprunté, on va dire volé, beaucoup d'idées fondamentales aux anarchistes sans jamais le reconnaître. Donc, il y a eu en philosophie tout un mouvement d'émancipation qui, à mon avis, repose sur des valeurs anarchistes, mais qui ne les ont, ces mouvements ne les ont jamais reconnus, par peur, sans doute, parce que c'est vrai que se dire anarchiste, c'est quand même faire un pas vers la possibilité de passer pour quelqu'un de séditieux, de violent, etc. Donc il y a une sorte de retenue que j'essaye de questionner.
On va en parler justement dans un instant, Natacha.
Alors j'aurais voulu revenir d'abord sur justement les liens entre... Enfin, la nature véritable du capitalisme, c'est-à-dire cet anarchisme de fait dont vous parlez. Vous citez par exemple, alors je ne sais pas comment ça se prononce, César de Pepe en 1874, qui dit, et ça résume assez bien le problème, « Le mot « anarchie » fait dresser les cheveux sur la tête de nos bourgeois, alors que l'idée de la réduction des fonctions gouvernementales et finalement l'abolition même du gouvernement est le dernier mot des économistes du laisser-faire patronné par ces braves bourgeois. » Et en fait, cette question de la j'allais dire la dimension, alors que j'aurais dit dans, simplement révolutionnaire du capitalisme, qui en fait a besoin de supprimer toutes les limites, toutes les barrières. Est-ce que c'est pas, c'est, d'abord, est-ce que c'est pas sa nature profonde? Et quels sont les mécanismes qui lui ont permis ensuite, justement, d'abolir de plus en plus les limites qui lui étaient imposées?
Catherine Malabou.
Oui, merci beaucoup. Vous pointez quelque chose de très difficile à penser, qui est la proximité incontestable de l'anarchisme, on va dire, d'éveil et du libertarianisme, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'anarchisme de droite, qui se caractérise par la critique de toute intervention d'État dans l'économie, mais qui va plus loin encore que le néolibéralisme classique.
Qui est très présent aux États-Unis, par exemple, voilà. Comme manière de penser justement
Trump
l'économie
réclame,
totalement dérégulée.
S'en énormément.
Trump s'en réclame.
Voilà, et qui passe, si vous voulez, là, le trait le plus saillant, c'est le refus de payer des impôts. D'ailleurs, il y a un philosophe qui s'est fait l'écho de ça, qui est Peter Sloterdijk, oui. Qui a écrit un livre qui s'appelle La main qui donne. Voilà, il dit on donne beaucoup et on n'a rien en retour. Donc, si vous voulez, c'est l'argument libertarien selon lequel donner à l'État participe du vol. Et ça, c'est une idée, effectivement, qu'on va retrouver aussi chez les anarchistes de gauche. La grande différence, évidemment, est que dans l'anarchisme révolutionnaire, eh bien, on a cette critique du capitalisme. Hein. Il ne s'agit pas du tout de faire du profit. Il s'agit de critiquer, effectivement, les mécanismes d'intervention économique et politique de l'État, mais pour permettre au peuple de s'autogérer et de partager, enfin, dans une économie participative, collaborative, qui ne participe pas du profit.
Gilles Finkelstein.
Je voudrais revenir sur la définition de l'anarchisme ou de l'anarchie. Je vais le prendre non pas par la philosophie, mais un peu par les hasards, vraiment, de les coïncidences de lecture par la littérature. Je terminais cette semaine un livre de Roger Vaillant qui s'appelle La Fête. Roger Vaillant, écrivain, communiste, résistant, dandy, libertin. Et dans ce livre, il y avait un écho formidable avec ce que vous écrivez. Il écrivait le personnage, mais ce personnage était lui-même. Il y a quelques années, très peu d'années, dans des circonstances que j'estimais graves et qui ne l'étaient sans doute pas, je pris la décision, quoi qu'il pût en advenir, de ne pas me décider par passion ni par amitié, mais politiquement de puissance à puissance à l'égard de n'importe quelle puissance dans le monde. Maintenant, je dirais de souverain à souverain. Est-ce que votre définition de l'anarchisme, c'est ça, c'est que chacun soit un souverain? Et est-ce que ça veut dire une liberté absolue?
Catherine Malabou.
Ah, c'est une question très intéressante et je vous répondrai pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que tant qu'on reste, à mon sens, dans les métaphores de la souveraineté, qui sont des métaphores du gouvernement, y compris du gouvernement de soi, alors on n'est pas du tout dans l'anarchisme. La définition, y compris la définition de la liberté comme autonomie, à savoir être son propre souverain, effectivement, depuis Kant, on sait ça, pour moi, comporte toujours le danger de raisonner avec la logique de la domination. Parce qu'au fond, pour moi, je sais que je vais peut-être choquer les auditeurs, mais il n'y a pas tellement de différence entre obéir à quelqu'un et obéir à soi-même.
Alors ça, c'est logique, justement très paradoxal.
Voilà, mais la logique est la même. Je veux dire, cette idée que la liberté passe par l'obéissance est une idée que les anarchistes ont toujours combattue et qui me semble devoir être revalorisée philosophiquement.
Mais quand on pense la démocratie, le citoyen, il est à la fois obéissant et décideur. Il est les deux à la fois. Il obéit à des lois qu'il a décidées. Il est l'idée représentant. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie représentative, puisqu'on est dans une période électorale et qu'on doit aller désigner non pas seulement un représentant, mais un chef?
Permettez-moi de revenir un petit peu à Aristote, qui paradoxalement a critiqué l'anarchie, mais en même temps, il a posé quelque chose qu'un autre philosophe, Jacques Rancière, va définir comme
philosophe français contemporain.
Voilà, l'anarchisme inhérent à la démocratie, qui est qu'au départ, si vous lisez la définition de la citoyenneté par Aristote, elle préconise que chacun, tour à tour, doit pouvoir commander et obéir. Ce qui veut dire des mandats courts, renouvelables, et pas de représentation, ou alors des représentations très momentanées.
Ce qui veut dire que vous êtes très critique sur le système de la démocratie représentative telle qu'elle existe en France.
Oui, alors ça c'est une autre idée effectivement que Proudhon a beaucoup critiqué, la représentation. À partir du moment où quelqu'un me représente, il y a à nouveau le développement de cette logique d'obéissance.
Mais vous irez quand même aller voter ?
Non.
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 Non, mais justement, pour que les choses soient claires...
C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais non.
Ah. Non.
Non.
Natacha.
Donc, ça veut dire que c'est pas une position de principe, c'est une position de circonstance?
Non, bah, c'est devenu une position de principe. D'accord. Mais principe est évidemment contradictoire avec l'anarchie qui veut dire sans principe. Oui. C'est un principe du sans principe, oui.
Je voudrais continuer sur cette question de la liberté parce que je ne suis pas bien sûre de vous comprendre sur votre définition de la liberté. Et donc, je le relirai aux réflexions que je me suis fait justement. Je poursuis un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de la nature même du capitalisme. J'ai pensé en vous lisant notamment à tous les écrits de Jean-Claude Michéa sur l'idée de ce capitalisme révolutionnaire et finalement de l'espèce de révolution culturelle qui aurait permis au capitalisme, au laisser-faire, de s'étendre totalement, c'est-à-dire que le laisser-faire moral serait venu coïncider avec le laisser-faire économique. Et là, on touche à la dimension de l'éducation des individus et de la façon dont ils vont petit à petit soit pouvoir développer leur liberté, soit au contraire, disons, entrer dans ce système. Il me semble que la question de la l'instrumentalisation des pulsions par le capitalisme est une dimension aussi importante. C'est-à-dire, en gros, comment se joue cette question de la liberté? Est-ce qu'on peut éduquer les individus à la liberté? Et est-ce que le capitalisme n'a pas intérêt, au contraire, à ce qu'il soit dans la pulsion? Et quel est le rapport entre votre idée de la liberté et les pulsions, la raison?
Catherine Malabou.
Oui, alors, évidemment, si je dis qu'il faut contester une définition de la liberté comprise comme obéissance, y compris comme obéissance à soi-même, on va me rétorquer, et vous avez raison immédiatement, donc vous voulez dire que la liberté, c'est le laisser-être de la pulsion, c'est alors la porte ouverte aux esprits animaux, il n'y a plus de maîtrise. Alors je crois que pas du tout. Je pense que précisément le discours qui consiste à dire, comme chez Hobbes par exemple, hein, que sans gouvernement, c'est la guerre de tous contre tous, la porte ouverte à toutes les pulsions, est un discours qui, au fond, est parfaitement cohérent avec une définition de la liberté comme obéissance et domination. Je ne vois pas pourquoi... vous parliez du pain tout à l'heure. Je voudrais faire référence à cette boulangerie qui existe à Montreuil, qui s'appelle La Conquête du pain, en référence à un livre écrit par un anarchiste qui est Kropotkine, qui est une boulangerie entièrement autogérée, dans laquelle il n'y a pas de chef, où les bénéfices sont répartis. On ne voit pas du tout, dans ces conditions-là, pourquoi... L'autogestion, l'horizontalité laisserait la porte ouverte aux pulsions. Au contraire, je crois qu'il faut bien voir que l'anarchisme se définit comme un ordre et pas du tout comme un désordre.
Un ordre pour la liberté. Malgré tout, votre refus de la démocratie représentative, elle va choquer le fait de refuser d'aller voter. Ça va choquer de nombreuses personnes qui nous écoutent et qui pensent que c'est peut-être le pire des régimes, je ne vais pas paraphraser Churchill, mais à l'exception de tous les autres et qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un retour de régime autoritaire, de forme de gouvernement autoritaire, de refus de l'état de droit au sein même d'espaces qu'on pensait préserver.
Oui, mais
se chérit la démocratie aussi en ce sens-là, Catherine Malabou.
Il n'y a pas que la démocratie représentative, il y a aussi la démocratie participative. Il y a d'autres formes de démocratie que la représentation. Il ne faut quand même pas l'oublier. Moi, je ne prône pas du tout quelque chose comme une critique de l'état de droit. Absolument pas. Hein, il peut y avoir un droit anarchiste. Il y avait un colloque récemment à Sciences Po qui était justement organisé par un groupe qui s'appelle les juristes anarchistes, hein, qui sont des gens très sérieux et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer le droit, l'anarchisme au droit. Il y a d'autres formes de démocratie que celle de la représentation. Moi, personnellement, si vous parlez de la représentation, je ne me sens pas du tout représentée par quelque candidat que ce soit dans cette élection. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est à ce moment-là, la représentation?
Natacha, et puis j'aimerais bien qu'on passe à la question de l'émancipation qui est au cœur aussi de ce livre, Natacha.
En un mot, avant que Gilles puisse vous poser sa question, juste pour continuer sur cette question de l'évolution de nos sociétés, vous parlez à un moment de la combinaison hybride de la violence gouvernementale et de l'ubérisation illimitée de la vie pour définir les systèmes dans lesquels nous sommes, puisque nous constatons tous qu'il y a en effet cette forme donc d'anarchisme de fait dont vous parlez, notamment grâce au numérique, mais en même temps une espèce de technocratie, d'hyper-administration de plus en plus autoritaire, dont il me semble que la crise du coronavirus a donné un exemple absolument effarant. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Est-ce que c'est lié à ce que des gens comme Jacques Ellul ou David Graeber ont défini comme étant un capitalisme qui, par culte de la performance, a besoin de mesurer tout en permanence et donc de créer une inflation administrative? Ou qu'est-ce que
oui, moi j'aime bien votre référence à Jacques Ellul, qui est un philosophe qui n'est plus tellement lu, mais qui était un anarchiste et qui a inscrit sa pensée de l'anarchisme dans une réflexion sur la technologie, effectivement, et la gouvernance par la technologie. Pour répondre à votre question, je pense que l'ubérisation généralisée de la vie et l'installation de l'anarcho-capitalisme dans nos vies se doublent politiquement d'un autoritarisme a priori paradoxal, parce qu'on pourrait dire bah alors c'est le retour en force du gouvernement, mais en fait pas du tout. C'est une pure forme d'autorité qui est là, à mon sens, pour masquer justement l'horizontalité économique et technologique.
Gilles,
vous disiez tout à l'heure le principe du sans-principe. Dans votre livre, vous opposez au gouvernable le non-gouvernable dont vous vous revendiquez, écrivant notamment « Ça ne repose pas sur l'idée que gouverner est mal, mais que gouverner n'est pas possible.
Oui. »
Donc ça c'est un très, très intéressant. Alors, gouverner n'est pas possible. Est-ce que ne pas gouverner est possible? Je vous dis ça parce que dans le formidable livre d'entretien entre André Comte-Sponville et Francis Wolff, enfin, surtout Francis Wolff, qui s'appelle Le Monde à la première personne, qui est sorti il y a quelque temps, Francis Wolff...
Ne multiplions pas les exemples et les références à l'infini malgré tout, que ça reste accessible. Francis Wolff, c'est un philosophe français contemporain, ça, qui a été une très grande figure de l'enseignement à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et qui a publié de nombreux livres sur l'universalisme. C'est un très grand spécialiste d'Aristote et de la philosophie antique également. Voilà pour l'incise.
Oui, mais j'allais dire des choses extrêmement accessibles, monsieur Ali.
Je n'en doute pas.
Francis Wolff donc dit, reprenant Kant, à la fois les hommes ne peuvent pas vivre les uns sans les autres, ils sont sociables par nature, et d'un autre côté, ils ne peuvent pas vivre avec les autres, ils sont insociables par nature. Et donc, il y a à la fois l'idée de la communauté et l'idée du pouvoir. Et donc, comment ça se passe dans un régime, ou comment ça se passerait hein, dans le régime anarchiste que vous imaginez, dans lequel on ne peut pas gouverner? Gouverner est impossible.
Catherine Malabou.
La réponse qu'ont donné les anarchistes fondateurs, comme Proudhon, Kropotkine, etc., il y en a deux, en fait. C'est l'entraide, c'est-à-dire on va remplacer la verticalité par la coopération, l'entraide et le fédéralisme. Donc la mutualité, c'est-à-dire au lieu d'avoir des rapports, encore une fois, verticaux, on a des rapports horizontaux, hein, de coopération. Et d'autre part, le fédéralisme, à savoir au lieu d'avoir une instance pyramidale, comme l'État, on va avoir une multiplication de fédérations à des niveaux micro et macro. Hein, ça commence par le quartier, la ville, etc., etc.
Et ça passe aussi par des types d'organisations,
oui.
D'entreprises par exemple. Vous allez
comme
aux quatre coins du monde pour parler de cette boulangerie. Mais on peut aller regarder les mouvements zapatistes. On peut aussi aller jusqu'à Taïwan pour voir comment une jeune ministre du numérique a pu aussi incarner une forme de conquête démocratique alors que l'épidémie et la pandémie s'installaient dans la région à une heure de vol à peine en Chine. Mais il y a aussi le combat féministe. Et pour vous, et c'est l'un des temps forts d'ailleurs de vos travaux, le clitoris est un anarchiste. Il y a une manière de se libérer de la domination masculine, je le dis, ça fait sourire Natacha, mais il y a une cause du clitoris et j'aimerais que vous nous l'expliquiez qui est un parfait exemple de la possibilité de se libérer offerte par l'anarchisme d'éveil que vous décrivez, Catherine.
Oui, je me suis un petit peu amusée à imaginer quelle pouvait être la traduction dans le corps des idées anarchistes que je pouvais développer par ailleurs, des idées philosophiques que je pouvais développer par ailleurs dans l'autre livre. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui, dans un corps, n'est pas gouvernable? Et voilà, j'en suis venue à cette... à cet organe, on va dire, qui s'appelle le clitoris. Et évidemment, c'était pris dans une réflexion sur la domination, puisque l'anarchie se définit comme essentiellement un combat contre la domination, hein, c'est-à-dire
oui.
la logique de gouvernement. Et je me suis amusée, c'était en même temps très sérieux, je me suis interrogée sur y a-t-il une traduction corporelle, en fait, de cette mouvance politique. Et j'en suis venue... à analyser cet organe qui me semble opposé à certaines logiques de la
organe
maîtrise.
Destiné au plaisir.
Oui.
Organe destiné pas à la reproduction ni à la maternité, qui n'est pas phallique, qui ne sert pas à la domination, à la pénétration, à la possession.
C'est ça, et qui au fond ne sert à rien, sinon au plaisir.
Et donc à l'essentiel.
À l'essentiel, c'est-à-dire à la liberté aussi.
Natacha.
Alors, je vais en venir à un sujet beaucoup moins sympathique et beaucoup moins agréable, en très peu de temps, puisque c'est une des dimensions de votre pensée, la question des crypto-monnaies. Et la façon dont on peut penser la révolution qui est à l'œuvre avec les crypto-monnaies. Puisque vous avez signé un manifeste donc pour justement demander à ce que ces crypto-monnaies puissent exister, sachant que ce qui est majeur, c'est que une monnaie, quand elle est liée à un État, est un instrument politique. C'est un instrument qui permet de participer à l'élaboration d'une politique. La question que je me pose sur les crypto-monnaies, c'est est-ce que ce n'est justement pas l'exemple de quelque chose qui va empêcher toute forme de décision de gestion collective et donc qui risque d'aboutir à une autre forme de domination.
Catherine Malabou.
Ce qui m'intéressait en fait dans les crypto-monnaies, peut-être c'est vrai que je me suis un petit peu enthousiasmée parce que quand j'ai découvert au fond ce que c'était, j'étais renversée. Quoi. Je me suis dit, mais c'était extraordinaire qu'on puisse ainsi contourner les instances centrales, les banques.
Les États.
Les États. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que ce qui m'intéresse dans ce dispositif, c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est-à-dire, comme vous savez, un mécanisme de régulation et de contrôle qui interdit le vol, en fait, précisément, hein, qui est accessible à tous, qui est lisible, transparent. Et j'ai trouvé très intéressante l'idée de remplacer les mécanismes gouvernementaux par une plateforme qui rend les transactions lisibles. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et il me semble qu'il peut y en avoir une utilisation émancipatrice.
D'accord.
Et vous dites, y compris, je rebondis sur ce que dit dans votre livre, ce qui apparaît pour vous un progrès, c'est que ces crypto-monnaies ne reposent pas sur la confiance, mais sur la transparence.
C'est ça. C'est la blockchain, justement. C'est-à-dire, il n'y a plus la question psychologique de la confiance, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière de tromperies, d'arnaques possibles, etc. Mais les choses sont inscrites technologiquement dans les blocs. Et donc, ça libère d'une certaine façon. Enfin, c'était l'esprit qui présidait à cette création.
Et alors, c'est quoi la caractéristique pour vous de ce que vous appelez cet anarcho-capitalisme, ce qui résonne de manière parfois étrange? Est-ce que c'est la puissance des firmes qu'on a déjà vues sous d'autres formes par le passé? Est-ce que c'est parce qu'elles produisent comme horizontalité ou est-ce que c'est parce qu'elles sont réellement globales et que donc elles passent au-dessus des États?
Catherine Malabou.
La puissance de l'anarcho-capitalisme est essentiellement cyber-anarchiste. Enfin, je veux dire que l'anarcho-capitalisme passe à 99% par Internet, par les GAFAM, par effectivement le contrôle des esprits et des finances par la technologie.
Au fond, Proudhon est notre contemporain pour penser l'émancipation. C'est intéressant parce que ce livre va faire débat quand vous parlez d'un anarchisme d'éveil. Il y a évidemment la résonance du mot woke qui vient immédiatement à l'esprit. Vous étiez élève de Jacques Derrida. La déconstruction s'est vouée aux gémonies par de très nombreux intellectuels. Aujourd'hui, ce sont des sujets en tout cas de friction, mais c'est une très belle contribution en tout cas à un débat à un moment important où on essaye de repenser la politique et où on essaye de repenser nos sociétés en donnant plus de place à l'horizontalité, en essayant de lutter contre les différentes formes de domination et notamment la domination masculine. C'est l'un des traits de l'époque dans un certain nombre de nos sociétés. Je recommande donc chaleureusement la lecture de Au voleur, point d'exclamation, anarchisme et philosophie. Merci Catherine Malabou d'avoir
merci
été
beaucoup,
l'invitée
merci
du Grand Face à Face. Le livre est publié aux presses universitaires de France et je remercie Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Philippe Duclos. Salut les amis, Gilles, vous avez rallumé votre téléphone portable, l'émission n'est pas encore terminée, je n'ai pas encore dit au revoir, mais je le dis vraiment en souriant et uniquement par esprit de rébellion.
C'est un gouvernement, hein.
Je suis un gouvernement très autoritaire mais un despote éclairé, Catherine Malabou. Alors je ne sais pas si ça marche avec l'anarchisme. Mes chers auditeurs, on vous donne rendez-vous en tout cas samedi prochain.